Dans la bulle 2, un programme consacré à des artistes surprenants pour un plongeon imminent dans leur univers. Il y a des âmes qui ne nous sont pas inconnues, des âmes qui dialoguent entre elles dans des dimensions qui nous échappent. Il y a des artistes qui nous touchent au cœur, qui nous touchent au fond, qui tout à coup font ressortir de nous tout ce qui était incontestablement enfoui, telle une suée d'être. Des artistes dont on ne peut détourner les yeux, suspendus à leurs lèvres, comme si tout à coup, notre vie entière en dépendait. Il ne s'agit pas d'avoir les poils ou d'être ému. Non, c'est saisi dans mon entièreté par cette artiste surprenante, authentique, à fleur de tripe, que, pour la toute première fois de ma vie, j'ai vécu un concert en pleurant du début à la fin. Une fois terminé, j'étais comme clouée au sol. Je n'avais plus conscience de mon environnement, plus aucun repère temporel. Quelques minutes plus tard, mes esprits à nouveau réunis, une seule idée en tête, la rencontrer. Il fallait absolument que je lui parle, que je lui dise combien elle m'avait bouleversée. Je me suis donc mise à sa recherche, j'allais voir les techniciens, les organisateurs, et l'un d'entre eux me prit par la main et me fit arpenter les longs couloirs de cet endroit incroyable qu'est le Trinitaire. Tout le monde semblait investi de ma quête, mais impossible de la trouver. Cette histoire n'était finalement pas terminée, un énième message sur ses réseaux, et un beau matin, une réponse, une bouffée d'une joie immense, une interview accordée. L'écriture de cet échange s'est faite par instinct, dans l'abandon de mes exigences habituelles, authentique, véritable. Cet entretien débute maintenant. Bonjour Amina Kadeli, bonjour Flesh Love.
Ouais, c'est magnifique ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touchée.
Ben merci beaucoup à toi de m'accorder ce temps. Vraiment, tu m'as totalement bouleversée. J'ai pas de mots pour exprimer la gratitude que j'ai pour cet échange là, en ce moment même, l'instant présent.
Ça me touche beaucoup, en tout cas.
Alors, Amina, je me trouve en ce moment même dans les Vosges. J'ai actuellement une vue imprenable sur les montagnes. Et toi, où te trouves-tu en cet instant T?
Eh ben, face à un grand immeuble.
Ok.
Deux salles des ambiances.
Ben, je te partage un petit peu de mes montagnes, alors.
Je prends. Voilà, je suis en studio à Paris pour continuer à composer, à écrire. Voilà, en
super.
Plein processus créatif. Mais j'ai quand même la chance d'avoir une fenêtre. Alors qu'il ne donne pas sur des montagnes, mais bon, écoute, je prends.
Alors, je me suis bien entendu immergée dans ton univers durant cette écriture et j'ai encore versé des larmes. Amina, est-ce que tu fais toujours cet effet-là?
Mais tu sais, on n'est pas, je pense pas qu'on soit trop conscient et consciente de ce qu'on génère chez les gens, mais tu sais, même au-delà d'être artiste, hein, les gens qu'on rencontre, tu sais, dans des relations humaines, toi, par exemple, ce que tu peux générer chez quelqu'un. Sauf que nous, artistes, en général, on a la chance d'avoir des retours,
oui.
Magnifique. Et en fait, c'est ce genre de retour comme celui que tu as partagé au tout début de cet entretien. Ça donne du sens à ce qu'on fait,
ouais.
Je trouve.
Alors, pour commencer, Amina, qui es-tu?
Quelle question. Qui suis-je? Je suis multiple, comme tout le monde. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, parce que je viens de terminer un livre qui s'appelle Guérison aussi, qu'on est plus, notre organisme est plus fait de choses non humaines que humaines. Tu vois, c'est intéressant. Il y a plus de microbes, de champignons que de cellules humaines. Donc, qui sommes-nous? Vaste question.
Alors, Amina, je te cite. Je me réclame de la trempe des sorcières, de celles qu'on a voulu chasser, de celles qu'on a brûlées parce qu'elles brillaient trop fort.
Ça, je l'ai dit parce que, en fait, ma maman, elle vient de l'Algérie, de l'Est algérien, Chaoui, et du coup, il y a cette tradition des guérisseuses là-bas depuis longtemps. Mais sauf que, en fait, ça, il y a plein de choses qui ont été compliquées dans mon histoire et dans l'histoire de plein de gens. Et du coup, c'est vrai que il y a eu une déconnexion avec ce pan-là de mon histoire. Et c'est vrai que quand j'étais en Suisse et que je disais que mes grand-mères, c'était des guérisseuses, eh ben, on me traitait de sale sorcière. Et puis, du coup, à l'époque, c'était pas très à la mode. Hein. Les sorcières, c'était pas très à la mode. Et du coup, j'étais passablement mise de côté et ostracisée à cause de ça. Mais C'est un peu comme nos histoires à nous. C'est souvent ce qui nous met de côté, ce qui fait qu'on est mis de côté, qui devient nos plus grandes perles et nos plus grandes forces, quoi. C'est la résilience aussi.
Ça, c'est beau, ça. C'est un très beau message. Amina, combien as-tu eu de vie avant celle-ci?
Oh, je sais pas. Tu sais, des fois, j'ai l'impression d'avoir déjà 400 ans. Et surtout mes articulations, mais. Non, mais tu sais, il y a plein de théories différentes sur la spiritualité que je trouve intéressantes. Et même en termes scientifiques, si on s'intéresse un peu à la physique quantique, ces questions de toutes les temporalités qui seraient entrelacées, le fameux chat de Schrödinger, franchement, j'arriverais pas à te donner une réponse. Mais par contre, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai des sentiments de déjà-vu, de déjà-rencontré, de déjà ressenti, et ça, c'est parfois troublant.
Moi, je te trouve très cosmique, très spirituelle, justement. Est-ce que c'est facile pour toi de trouver du sens, de trouver ta place dans ce monde-là, dans cette matrice?
Pas trop, mais je pense que l'art, c'est aussi une façon de créer sa propre niche. Du moins, si on arrive à s'extraire de l'industrie de la musique, dans mon cas, et de créer un nouveau paradigme, et de respecter son intégrité et son intuition. Mais après, on reste quand même des êtres sociaux, donc je fais aussi partie d'une société et trouver du sens, être dans des activités collectives, dans la transmission, et puis d'essayer d'être dans la gratitude au quotidien, c'est déjà pour moi, c'est déjà pas si facile à mettre en place et c'est nécessaire.
Alors, tu parles et tu chantes tes ancêtres, tes racines. Quand est-ce que tu as eu envie de te réunir? Car rencontrer ses origines, nos origines, c'est un peu une réunification d'être, non?
Oui, et c'est vrai que bah, je fais partie comme de nombreuses personnes. Je suis une fille d'immigrés. Ma mère algérienne a quitté l'Algérie pour la Suisse. Et comme de nombreux enfants d'immigrés, en fait, il y a tout un pan de notre histoire qu'on ne raconte pas. Alors, l'histoire de la Suisse et de la France sont très différentes, mais en Suisse, l'idée d'intégration, c'est l'assimilation. Donc, effectivement, on intègre mieux les étrangers, mais par contre, il y a cette idée d'effacer d'où on vient. Donc, ma mère nous a pas du tout parlé de l'Algérie, et donc j'ai senti déjà assez jeune un besoin de comprendre d'où je venais, parce qu'un arbre sans racine, il tient pas longtemps debout. Et du coup, bah, je me suis un peu engagée d'abord toute seule. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on commence un chemin de guérison, on prend avec soi tout le monde, toute
Eh
sa
oui.
famille et ses ancêtres. Voilà. Donc, c'est un chemin maintenant qu'on partage ensemble.
Tu avais déjà fait carrière dans la musique, mais comment est venu au monde Flesh Love?
Flesh Love, je pense que c'était un cri du cœur, un cri de l'âme. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'étymologie du mot, mais tu vois, le mot carrière, il est quand même pas anodin. Une carrière, c'est quand même une carrière de calcaire, de pierre. On va aller extraire quelque chose. Il y a cette idée de travail. Il y a cette idée aussi de briser la roche et tout. Donc, moi, j'ai d'abord eu une première expérience musicale qui s'est liée à une carrière parce que c'est pas très bien passé. J'étais une jeune fille, c'était ma première expérience. Et puis ensuite, je suis sortie de cette dynamique de carrière pour me réaligner et me dire, bon, bah, je fais de la musique et je pense que quand on essaye de faire quelque chose qui nous touche réellement, bah, on trouvera toujours des gens qui vibreront avec nous, même si c'est pas passer sur TF1 et c'est pas spécialement le rêve d'une vie ou de remplir un zénith. Mais en tout cas, on trouve toujours sa tribu, moi, je pense.
Tu chantes en différentes langues, comme en arabe d'ailleurs. Je me rappelle d'un titre que tu avais enregistré avec Rachita il y a quelques
Oui.
années. Tu chantes aussi des langues que tu ne parles pas.
Exactement.
Alors pourquoi?
Je trouve que en fait, la linguistique, je trouve ça passionnant. Je me suis toujours demandé si on pensait de la même façon, si on écrit de droite à gauche. Par exemple, en arabe, il n'y a pas de verbe être. Qu'est-ce que ça dit de toute une civilisation qui parle sans le verbe être? Je trouve ça fascinant. Quand en allemand, par exemple, on change le sens, on intervertit le sujet et le verbe, on envoie le verbe tout à la fin. Quel est l'impact sur la philosophie, sur la pensée? Et du coup, ça m'intrigue d'aller découvrir. Je trouve que c'est des ponts, les langues. Alors, c'est des petites incursions, puisque je parle pas ces langues-là, mais par exemple, dans mon spectacle acoustique, je chante en grec, en turc,
Oui.
en suisse allemand. L'allemand, je parle un tout petit peu, mais je le maîtrise pas. Et puis là, par exemple, je suis en train de travailler sur un morceau en arménien, notamment. Franchement, c'est passionnant, je trouve.
Est-ce que ça amène une vibration d'âme différente par rapport aux langues que tu emploies quand tu chantes?
Bah, déjà, en termes de phonation, c'est complètement différent parce que la langue ne se positionne pas exactement, il n'y a pas exactement le même travail phonatoire. Et en plus de ça, comme tu dis, il y a une vibration différente parce que moi, je crois qu'on se connecte aussi à l'inconscient collectif et les langues ne sont pas anodines. Et du coup, on est embarqué dans d'autres parcelles de notre âme que je trouve intéressantes et parfois neutres, c'est-à-dire de se connecter à une langue avec laquelle on n'a pas de lien affectif et émotionnel, ça permet parfois un travail de guérison un peu moins, où on va moins solliciter le système nerveux, et je trouve que c'est pas inintéressant d'aller dans des terres inconnues comme ça.
Alors, tu viens de sortir ton nouvel album Guérison, une vraie mise au monde. Dans cet album, tu nous livres des confidences comme celle-ci.
Le 22 mars 2023, 20h52, toute seule face à mon micro, toute seule face à moi, on est toujours tout seul face à soi de toute façon. En train de créer ce prochain album qui à la fois me terrifie, mais à la fois il faut que je l'expulse, il faut que je le sorte. Je suis juste un tube en fait, je suis traversée par quelque chose de plus grand que moi et à la fois je m'y accroche, il faudrait qu'une fois délivrée, je puisse m'en séparer. Mais j'ai peur, j'avoue que j'ai peur de sortir cet album et je pense qu'il y a beaucoup de mes blessures d'enfance qui se rejouent. J'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée. J'ai peur qu'on ne comprenne pas, qu'on ne me comprenne pas, mais est-ce que moi déjà j'arrive à me comprendre ? C'est déjà tellement étrange d'être en vie. Comment les autres pourraient-ils comprendre ?
Voilà pour ce petit extrait sorti de ton album Guérison. Donc, une petite note audio que tu as eu envie d'ajouter.
Tu sais, c'est drôle parce que c'est un des passages qu'on me partage le plus en radio, alors que j'aurais jamais imaginé. Parce que, en fait, à la base, quand j'ai enregistré cette note audio, j'étais en pleine production musicale et je produis quand même passablement le soir. C'est un moment où j'arrive souvent à me connecter à ma créativité, et j'étais épuisée, j'avais pleuré juste avant, j'étais terrorisée, et je me suis dit, donc en fait, j'enregistrais des notes vocales aussi pour moi, pour garder une trace.
Ouais.
Et quand j'ai commencé à vraiment créer justement une liste de morceaux pour l'album, je me suis dit, je peux pas appeler mon album Guérison si je mets pas des moments de doute et des moments d'écroulement, parce que la guérison, elle est pas linéaire, tu vois. Il y a des moments de grâce, mais il y a des moments, voilà, où ça va pas. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se montrer dans un état de vulnérabilité. La créativité, de toute façon, c'est un acte assez vulnérable. Oui. Mais je m'attendais... Et en même temps, je me sentais un peu nue, hein, parce que je me suis dit, bon, je mets ça dans mon album. En plus, je casse mon album en deux. Les gens, en général, parce que tu sais, on te dit, ça va... Bon, moi, de toute façon, je passe pas spécialement à la radio. Et ça n'a jamais été, tu sais, moi, quand je crée, je me pose pas du tout. Il n'y a pas de contingence comme ça... commercial, mais du coup je me suis dit oulala, je prends un risque. mais ça me semblait juste, et c'est intéressant parce qu'on en a beaucoup.
En passant, Flesh Love est en programmation sur notre bande FM, donc voilà, avec grand plaisir on t'entend très souvent.
Merci.
Voilà.
Bon, merci beaucoup.
Alors on entend par cette note que c'est aussi par la douleur que tu enfantes cet album, hein, tu viens de nous le dire un petit peu. Par quelle émotion es-tu passée de la conception, la gestation, pour arriver à la mise au monde de Guérison?
Oh bah tout, hein. Oh bah j'ai tout ratissé. Non mais il y a aussi, alors effectivement il y a des moments de grande introspection, parce qu'il y a des moments de vulnérabilité, notamment il y a une chanson qui s'appelle Ayati où je voulais aborder la question de la maltraitance sans tomber dans quelque chose de voyeuriste. Je fais partie j'ai été une enfant comme malheureusement beaucoup de personnes sur cette planète qui a grandi dans une famille fonctionnelle et violente, et je me suis dit comment raconter la maltraitance de façon universelle, comment redonner une responsabilité à la terre aussi, genre quel est l'impact, cette espèce d'écoféminisme, tu vois, d'écologie réelle. Et donc du coup c'était très émouvant, mais il y a aussi des moments de joie, de danse, comme Amour Quantique, où des fois j'étais en train d'écouter ma prod et je me mettais à danser, j'imaginais, genre. Donc on passe par plein d'étapes, mais il y a aussi quand même beaucoup de joie. Il y a des doutes parfois parce que on se dit, mais mon Dieu, mais comment les gens vont accueillir ce que j'ai fait? Mais il y a aussi beaucoup de gratitude quand même.
Et combien ça t'a pris de temps en fait pour concevoir cet album?
Ah oui, j'ai commencé pendant le Covid, donc ça m'a pris quasiment 4 ans avec des moments de break. Et le premier morceau dont j'ai accouché, c'est Cetus. C'est le premier morceau qui est sorti. Voilà. Okay. C'est vraiment le premier morceau sur lequel j'ai travaillé parce que je voulais aller voir les baleines, et avec le Covid, ça avait été annulé mon voyage. Et donc je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, je vais les appeler. Et donc, Cetus, c'est la constellation de la baleine. Et toutes les bases de ma chanson, ce sont des chants de baleine.
Et d'ailleurs, on peut retrouver le clip de Cetus sur YouTube. Il est très, très beau.
Merci beaucoup.
Alors, quand et pourquoi, au-delà de cet album, as-tu commencé à arpenter le chemin de ta guérison?
Mais moi, je me demande s'il y a un temps précis qui marque le début, l'intronisation dans le monde de la guérison, moi j'ai l'impression que ça a toujours été. C'est très étrange, après je peux pas dire à un mois, mais en tout cas, quand j'ai commencé à prendre conscience de mon environnement et que j'ai senti une déconnexion, une aliénation dans ma famille, je me suis très vite posé des questions. Et donc à la base, j'avais peut-être juste quand j'ai commencé à pouvoir écrire, j'avais un petit journal intime. Mais très vite, j'ai eu cette sensation qu'il fallait que je m'embarque sur un chemin si je ne voulais pas me retrouver sur la nef des fous avec mes parents, quoi. Donc voilà, je me suis dit, oulala, il y a un choix à faire. Et ce qui est très étrange, c'est que je l'ai eu très jeune. Les enfants sentent beaucoup de choses.
Ils ne sont pas encore enfermés dans leur ego d'adulte.
Exactement.
Se guérir soi, c'est guérir sa lignée. Alors ceux d'avant, mais aussi ceux d'après.
Ah bah oui. Après, alors là, du coup, si on rentre dans l'épigénétique, si on rentre dans les neurosciences, on voit l'impact des dépressions, l'impact de la santé mentale sur les générations qui vont venir. Aussi l'impact de ma santé mentale si je suis enceinte. Ça a aussi un immense impact. Donc, ouais, c'est vraiment... Bon, en fait, pour moi, je trouve que c'est l'un des plus grands travaux écologiques. C'est d'abord de s'occuper de soi pour pouvoir ensuite honorer la Terre aussi qui nous reçoit.
Alors, tu as choisi, entre autres, la musique et les mots pour aller vers la guérison. Hein. Je suppose qu'il n'y a pas que ça, bien sûr. Tu es une grande lectrice, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et tu as donc, toi aussi, écrit un livre, tu nous disais au début de cette interview.
Oui, que j'ai fini jeudi et qui est parti en correction, que j'ai écrit en parallèle de mon album. C'est aussi pour ça que tout m'a pris plus de temps, c'est que j'ai tout fait en même temps. Et du coup, le livre s'appelle aussi « Guérison ». Avec comme petit sous-titre le premier livre de dépouillement personnel, parce que je le dis souvent, mais je ne crois pas beaucoup au développement personnel. Et donc, je pars de mon histoire, mais ensuite, je fais des liens avec le monde. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut changer la neuroplasticité de son cerveau ? Et donc, je partage des recherches que j'ai lues. J'ai lu énormément de livres et des pistes de réflexion. Si on s'inspire du vivant, est-ce qu'on peut s'inspirer des fourmis pour se guérir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? En fait, c'est un essai.
C'est incroyable. Je l'ai cherché parce que j'ai entendu dans une interview que tu étais en train d'écrire ce livre. J'ai cru qu'il était déjà sorti. Je l'ai cherché pendant longtemps. Je l'aurai bientôt entre mes mains, j'espère.
Il sort à l'automne.
D'accord, ouais, à l'automne.
Il sort à l'automne et en même temps... Et après, le lendemain où j'ai fini d'écrire mon livre, j'en ai commencé un deuxième. Mais celui-là, c'est un livre d'humour parce que je me suis dit que ça me ferait du bien.
Mais c'est ça qui est incroyable chez toi, parce que quand on te regarde, tu es pleine de joie. Et pourtant, quand on te voit sur scène, qu'on se plonge dans ton univers, tu es très saisissante d'émotions très fortes. Alors la joie, bien sûr, c'est une émotion forte. Tu nous plonges dans un intérieur, une profondeur incroyable. Tu es quelqu'un de très paradoxal, en fait, comme nous tous, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est très beau.
Bah, tu sais, c'est assez intéressant cette question, mais je regardais, il y a un reportage qui était sorti sur Jim Carrey, je pense que tu le connais. Oui. Jim Carrey, il a joué toute sa vie, alors il a eu des rôles assez profonds, mais il est connu surtout pour son côté humoristique. Oui. C'est quelqu'un qui a sombré dans la dépression. Oui. Et je pense à Robbie Williams aussi. Et donc, je me pose la question de parfois, quand on explore son intériorité et sa profondeur dans son art, peut-être que ça laisse la place pour la légèreté dans la vie aussi. Mmh. Et donc, en fait, si tu veux, moi, il y a quelque chose de très profond chez moi, mais je suis aussi quelqu'un de très absurde, de très drôle. Ma petite sœur, elle se moque tout le temps un peu de moi, mais gentiment, elle me dit que je suis un peu un mélange entre Eli Kaku et un prix Nobel de physique, tu vois. Mais c'est vrai. Et en fait, c'est important aussi, et ça, moi, je le rappelle régulièrement, mais même en live, quand on voit, il y a quand même des moments où je rigole et tout, qu'il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux, genre aussi qu'il faut inviter la joie, l'humour, parce que ça guérit aussi, en fait, guérit même énormément.
Et puis la vie, c'est une expérience, il faut aussi en profiter du côté joyeux de la chose.
Alors, bah oui.
Quand même. Alors, j'ai lu que le contenu de ton album était le fruit de l'écriture automatique.
Oui, majoritairement, c'est vrai. Bah, justement, je crois en l'inconscient collectif. Je crois aussi que la création, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout la première à parler de ça. Moi, j'avais lu un livre de Stephen Zweig sur la création artistique et il disait que créer, c'est rentrer dans un état d'extase. L'extasie, ça vient du grec ancien, être hors de soi. Et donc, créer, c'est faire de la place pour autre chose que soi. Et donc, je trouve ça assez beau. Et donc, j'aime bien cette idée d'accueillir ce qui doit descendre. Alors, quand ça descend, ça prend des petits morceaux de soi, un petit peu, au passage. Mais j'aime bien cette idée. Et parfois, c'est les gens qui m'écoutent qui me donnent le sens de ce que j'ai écrit. Par exemple, mon tout premier morceau, Moussouna, je ne l'ai pas compris quand il est sorti. Et c'est des gens... Plusieurs personnes m'ont dit l'avoir. C'est drôle, hein. Plusieurs personnes qui ont fait des expériences avec des psychédéliques qui m'ont expliqué avoir entendu le rap dans leur moment de trip ou me parler de la connexion à l'univers. Puis j'étais là, ah bon ? Et en fait, voilà, parfois les gens donnent du sens à ce qu'on fait et je trouve c'est beau parce que c'est un art participatif.
Ouais, c'est incroyable. Alors en concert, tu es accompagné d'un guitariste clarinettiste et d'un violoncelliste pour la partie acoustique. Tu nous immerges dans ton univers par ta gestuelle, par ta voix, tes compositions envoûtantes ou s'entrecroisent, donc du coup chant, rap et sonorités venues d'horizons parfois lointains. Tu t'annonces même comme notre guide durant le voyage dans lequel tu nous emmènes. Et je t'ai même vu pleurer saisie par l'émotion sur un morceau quand je suis venue te voir à Metz. Est-ce que ça t'arrive souvent?
Bah, quand même, d'être émue, oui. Alors après, il faut quand même savoir un peu se contenir, parce que sinon, tu peux pas faire ce concert. Il va pas se passer grand-chose.
Mais c'est un concept, y a quelque chose
de... Ça pourrait être un concept, mais c'est peut-être pas très agréable pour le public. Chaque fois, il n'y a pas de concert, en fait. Mais en fait, tu sais, il y a toujours une alchimie différente dans chaque espace dans lequel tu vas. Mmh. Et moi, je suis toujours déjà émue que les gens se déplacent, donc décident à ce moment-là de venir nous rencontrer. Mmh. Je suis toujours émue aussi parce que entre du coup Olivier Kunduno qui est au violoncelle et Jafar Ajouri qui est clarinette, voix et guitare, chaque concert est très différent parce que tout tient qu'à un fil. C'est rare d'avoir des morceaux, tu sais, où t'as juste clarinette, basse, violoncelle, voix. Bouf, c'est un peu particulier. Mmh. Et donc tous les trois, on est sur un espèce de bateau comme ça et on doit tellement être attentif et attentive les uns aux autres. Et donc, il y a une magie à chaque fois qui est très différente et c'est toujours assez émouvant que les gens viennent écouter un concert, moi, je trouve.
Très belle osmose, en plus, tous les trois.
Ouais, ils sont géniaux.
Ah ouais. On les embrasse, surtout le violoncelle. Ouais. Parce que le violoncelle, c'est mon chouchou, donc c'est pas le violoncelle, ça, c'est le violoncelle. D'ailleurs, c'est lui que je suis venue voir quand je t'ai cherché désespérément. Voilà, j'ai pu le remercier en avant-première, voilà.
Olivier, oui, c'est adorable. Mais oui, je te comprends. Tu sais que le violoncelle, c'est l'instrument qui est le plus proche de la voix, donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui doit t'émouvoir aussi là-dedans.
Mais c'est très sensitif, en plus. C'est très, voilà, il est tout proche de nous, on sent toutes les vibrations, les basses, et c'est un instrument incroyable.
Je suis d'accord.
Alors, on te voit aussi jouer avec la musique sur scène comme si tu saisissais son énergie entre tes doigts. Est-ce que tu t'en rends compte?
Pas tellement, mais je pense que peut-être ça vient du fait que c'est moi qui compose.
Ouais.
Et donc, du coup, là, j'ai pas d'instrument sur scène, donc mes mains sont l'extension de ces instruments un peu que j'avais quand j'ai créé la musique.
Tu composes aussi pour les instruments?
Alors en fait, par exemple, si tu prends l'album de Guérison, c'est tout moi qui ai produit. Moi, je produis toute ma musique, donc je compose. Ensuite, sur certains morceaux, il y en a un ou deux où j'ai invité Jafar pour composer avec moi parce que j'en avais marre d'être toute seule.
Ouais.
Et puis sur quelques-uns, j'ai invité des arrangeurs, mais après, c'est moi qui fais tout, genre les instruments, c'est moi qui crée tous les sons, c'est-à-dire je fais des recherches sonores pour chaque instrument. Et donc par contre, pour... le spectacle acoustique. Ensuite, on s'est mis les trois et on a créé en fait des arrangements, si tu veux, pour les morceaux, mais qui sont mes morceaux. Et même la semaine prochaine, je vais faire un stage de son mixage. Donc vraiment, je suis très investie dans toute la partie de vraiment production musicale, de chercher les équalisations, de chercher tous les sons. C'est vraiment pour ça aussi que ça m'a pris longtemps à faire cet album. Parce que par exemple, là, je suis en train de travailler sur un morceau. Hier, j'y ai passé 10 heures. Aujourd'hui, ça fait 3 heures que je suis sur le travail sonore de chaque kick, de chaque coup de batterie. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très long.
Et pourquoi tu as choisi de tout faire toi-même? Parce que justement, c'est quelque chose qui doit venir uniquement de toi.
Je pense que c'est un mélange de plein de choses. D'abord, moi, j'ai une première expérience musicale terrible et j'étais là, une jeune fille et j'ai commencé là-dedans et ça m'a passablement brisée. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je veux plus jamais être en studio. Pour le coup, moi, mon expérience, c'était avec des hommes plus âgés que moi.
Oui.
Et donc, après, il y a des hommes géniaux, hein, Jafar et Olivier, par exemple. Mais en tout cas, moi, j'ai eu des mauvaises expériences. Et donc, je me suis dit... Et les studios n'étaient pas un espace safe. Et moi, je connais quand même pas mal de femmes, il faut le dire, de jeunes artistes qui se sont fait agresser dans le cadre du studio. Et donc, j'étais pas à l'aise à l'idée de me retrouver seule avec un homme que je connaissais pas, parce que la majorité du temps, ce sont des hommes en studio. Et donc, dans un premier temps, j'ai voulu travailler toute seule. Et ensuite... je me suis rendu compte aussi que c'était un moyen de préserver mon intégrité créative. Mais maintenant, j'ouvre plus et puis je travaille avec des femmes et des hommes géniaux. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas restée sur ce trauma. Notamment dans les ingénieurs son, il y a Edouard Arbonnant avec qui je travaillais, qui est un mec absolument génial. J'ai travaillé vraiment avec plein de gens, Damien Traversa, voilà, des gens magnifiques. Mmh. Mais il y a toujours un moment où je dois être seule. C'est fondamental.
Oui.
Au début et à la fin, presque.
Est-ce que c'est un peu une transe parfois sur scène? Je reviens vers cette question où qu'on a l'impression que tu joues avec cette énergie.
Ah bah oui, il y a un état de transe. C'est sûr que la musique, déjà, c'est difficile de délier l'histoire de l'humanité et la musique. Donc, je pense qu'elle est omniprésente, que ce soit déjà de façon avec des percussions, avec la voix, et ça vient activer des zones du cerveau particulières. Et c'est pas anodin que notamment dans les trances chamaniques, on ait l'utilisation d'un tambour, par exemple. Donc effectivement, il y a une vibration, il y a quelque chose qui se joue. En plus, ce que je trouve assez touchant, c'est que parfois il y a des choses aussi de l'inconscient qui deviennent conscientes. Et c'est assez magique quand même la musique, je trouve.
Oui,
c'est assez puissant. Et à la fois, c'est mathématique. Parce que quand on commence à s'intéresser aux lois de l'arrangement, on se rend compte aussi que tous les sons sont présents dans la nature. Genre, c'est quand même assez métaphysico, scientifique, magique. Quoi.
Génial. C'est le nom du prochain album, ça? Alors, tu reprends en plus de tes titres des chansons comme Full Sentimental. Alors, j'ai pas de mots.
Belle, cette
voilà, ouais, j'ai pas de mots pour nommer ce que tu as fait là sur scène. Pourquoi tu as eu envie de reprendre certaines chansons comme celle-ci?
Alors déjà, je trouvais intéressant d'essayer. Alors c'est difficile parce que cette chanson est tellement splendide à la base. Hein. Oui. Alain Souchon, il a sorti un morceau qui est intemporel.
Oui, c'est vrai.
De par ses paroles aussi, hein, genre tristement intemporel. Oui. On voudrait que ce soit une chanson qui n'appartienne qu'au passé. Mais le rapport à la société de consommation, c'est toujours très actuel. Et en fait, déjà, il y a beaucoup de morceaux qui m'ont accompagnée et qui m'ont extrêmement touchée. Je trouve ce morceau splendide. Et en fait, vu que j'étais dans cette question de la guérison, du dépouillement personnel, je crois quand même que c'était une chanson qui abordait magnifiquement bien cette thématique. Après, j'avoue qu'au début, j'étais un peu stressée quand même de reprendre un tel morceau. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis vraiment partie dans cette idée d'en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'original, de vraiment m'éloigner, de rendre hommage, mais j'allais pas me frotter à Alain Souchon, donc à sa version, pas à la version d'Alain Souchon. Et donc du coup voilà, il y a eu un dépouillement aussi en termes de production musicale. Elle est assez différente, hein, la chanson d'Alain Souchon par rapport à la nôtre. Et en fait, à la base, j'avais fait ça pour le Printemps de Bourges, en fait. J'étais invitée pour faire une création avec des musiciens absolument géniaux. Et on avait travaillé sur ce morceau-là. Et j'avais aussi repris Carte de séjour Douce France de Rachid Tahar.
Oui. Est-ce que tu aimerais lui interpréter un jour à Alain Souchon ta version?
Alors écoute, j'ai ouï dire qu'il en peut plus des covers de ce morceau, parce que tout le monde le reprend. Écoute, je serais très touchée un jour de lui, si l'occasion se présente. En plus, j'ai entendu dire que c'était une très belle personne, ce qui n'enlève pas à l'œuvre et qui rajoute encore plus de sa sublime. Mais du coup, ça me toucherait beaucoup. Après, j'ai l'impression que je le rencontre déjà par le biais de ses mots, en fait. Parce que pour moi, c'est une vraie rencontre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, du coup, j'ai un peu adapté le phrasé, mais le phrasé d'un artiste, son lexique et tout, c'est vraiment rentré à l'intérieur de son univers et c'est assez intéressant. Pour moi, ça me demande, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de covers notamment, parce que je trouve que ça demande, c'est pas facile du tout en fait de reprendre des morceaux d'artistes.
Oui,
en tout cas, moi, je trouve pas que ce soit un exercice facile.
Amina, nous sommes en constante et perpétuelle évolution. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même dans 10 ans?
J'espère que j'aurai déjà gagné encore plus de paix intérieure. Je pense que c'est ça qui me aide, d'harmonie. Parce que la paix, ça veut pas juste dire être heureux, être bienveillant. Non, l'harmonie, c'est un équilibre de toutes les forces qui existent, et les forces sombres aussi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important, parce que des fois, dans la spiritualité, on entend qu'il ne faut être que lumière. Moi, je me méfie de celles et ceux qui disent ça. C'est les plus dangereux pour moi. Mais du coup, c'est de trouver un équilibre. Et puis, à la fois, on est constamment en évolution, parce que notamment, on est fait d'atomes qui bougent constamment, d'énergie, il y a l'énergie autour de nous. Mais ce qui est difficile, je trouve, à trouver comme équilibre, c'est d'avoir conscience qu'on change tout le temps, ne serait-ce que, tu sais, il y a un renouvellement cellulaire, il y a plein de choses qui se passent, mais en même temps, de ne pas être tout le temps dans l'attente d'une évolution et d'accepter et d'avoir de la gratitude pour ce qui est déjà à l'instant T. Donc, c'est très complexe, je ne sais pas encore, mais voilà, de trouver un équilibre et puis de m'ancrer le plus possible, d'avoir la famille que j'aurais créée, de vivre plus dans la nature, des choses comme ça.
C'est beau. Merci beaucoup, Amina Flesh Love, pour cet échange. Ton album est disponible alors sur les plateformes?
Oui, exactement. Et il est disponible aussi sur le site d'Horizon Musique, qui est mon label, parce que, en fait, on le vend En vinyle, mais
Oui.
on a décidé d'arrêter de vendre dans les grands magasins qui nous prennent beaucoup trop d'argent. Et en fait, en tant qu'artiste indépendant, non mais c'est vrai,
Oui.
c'est assez, c'est l'industrie est particulière, ça on pourrait en parler une autre fois,
Bah
mais
oui.
voilà, on a eu envie de revenir à une slow économie de la musique, comme on parle de slow travel, tu sais, de revenir à un artisanat
Oui.
et de revenir à quelque chose qui nous semble juste aussi économiquement. Que ce soit comment on paye les gens et comment nous on est payé. Donc on essaye de trouver un équilibre dans cette industrie aussi parce que bah n'empêche qu'il faut aussi générer de l'argent pour survivre.
Bien sûr.
Mais voilà, pour nous c'est important aussi de revenir à quelque chose qui nous semble plus juste.
On peut également retrouver le clip d'Amour Quantique et de Cetus sur YouTube notamment. Ils sont très très beaux. Est-ce que l'on te retrouve bientôt sur scène?
Oui, alors déjà ce qui est chouette, c'est donc il y a le concert que tu as vu dont tu as parlé avec Olivier Kounduno et
Oui.
Jaffar, qui est la version acoustique. Et
Oui.
alors j'ai un autre spectacle.
OK.
Alors là, c'est complètement, alors c'est bon, c'est vraiment, c'est ma musique, mais donc pas dans sa forme acoustique. Mais en fait, c'est l'idée, c'est de recréer la guérison sur un laps de temps d'une heure avec des décors, des danseuses. C'est à la croisée du théâtre, du masque, du chant, de la performance.
Oh, c'est
Et
génial.
le Ouais, vraiment, j'adore ce spectacle. Et en fait, la prochaine fois qu'on le joue, c'est du coup le 15 juin à Paris au Cabaret Sauvage. Ensuite, je crois qu'en juillet, on joue en acoustique à Bordeaux. Et après, on revient dès septembre. Et en fait, je joue les deux spectacles conjointement un peu partout. Voilà. Et c'est deux expériences qui se complètent et qui sont à la fois différentes. Bah, je me réjouis que tu puisses voir
Ah bah
celui
oui.
avec la danse.
Ah
Tu
bah
me
oui.
diras, ouais.
Bien sûr.
Ouais, voilà,
Le
et avec des costumes magnifiques aussi. Pour moi, les deux sont très complémentaires,
Ouais.
très honnêtement, qui me permettent d'aller à la rencontre de deux vibrations assez différentes. Il est plus vulnérable, l'acoustique que tu as vu, et il y a une adresse que j'adore au public. Moi, ça m'a beaucoup libéré, cette adresse de l'acoustique. Mais par contre, pour moi, l'électrique, il
Ouais.
est puissant et il t'emmène dans un univers et il te met une claque et il y a de la danse, il y a des percussions arabes partout. Genre, il y a
Waouh.
vraiment une liesse et un spectacle. Et les danseuses qui sont avec moi, Kilian et Charlie Desmilieux, sont exceptionnelles. Il y a
Génial.
vraiment un niveau de danse tellement. Non, mais moi, et puis moi, la danse, j'adore. Donc là, je suis plus toute seule à danser. C'est
Mais
génial.
si je regarde ce spectacle, je vais plus jamais décoller de l'endroit où je me trouve, quoi.
Mais tu nous rejoindras sur scène!
Me tente pas. Donc on peut te suivre aussi sur tes réseaux, hein, Facebook, Instagram notamment, Flash Love, vous trouverez très rapidement. Amina, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite?
De la paix, de la gratitude, de la paix intérieure et de vivre dans des pays en paix encore, c'est important. Et je te souhaite de même et je vous souhaite à tous et tous de même. Et puis de prendre conscience, vraiment la gratitude pour moi, c'est vraiment le chemin que j'ai décidé d'emprunter. Parce qu'on fait déjà partie des plus chanceux, on fait partie des gens les plus chanceux du monde parce qu'on peut manger tous les jours à notre faim, on se couche dans un lit chaud. Il y a plein de choses comme ça qui sont tellement basiques, mais que donc, plein de gens n'ont pas accès à ça. Donc voilà, de faire preuve de gratitude pour les petites choses, je crois que c'est une des voies qui amène notamment à la paix intérieure.
Est-ce que tu as des grands projets là à venir?
Sortir mon livre à l'automne, là, c'est quand même pour moi, c'est pas n'importe quoi et c'est vraiment, ça me tient beaucoup à cœur et j'aimerais vraiment que ce. En fait, je me réjouis d'avoir les retours des gens, c'est-à-dire que si ça a pu aider une personne, j'ai envie de te dire que ça donnera du sens à ce que j'ai pu vivre. Et donc, du coup, c'est parce que c'est vraiment un livre avec des vraies recherches et des vrais exemples pratiques. Après, il y a beaucoup d'humilité, hein. Je ne suis pas docteur en neurosciences, mais je partage juste, j'ai fait une synthèse de plein de choses avec des réflexions, de la poésie et il est assez hybride. Donc ça, je pense que c'est quand même mon grand projet. Et puis de partir vraiment en tournée, de rencontrer les gens, ça fait beaucoup de sens aussi. Et de continuer, il y a des belles collaborations. Là, je peux pas encore en parler parce qu'elles sont pas terminées, mais j'ai quand même des collaborations avec des artistes magnifiques dans des langues différentes. Et ça, je me réjouis de faire des ponts avec d'autres pays du monde, d'autres cultures. Et la vie est pleine de surprises, donc si ça se trouve, je vais finir par faire de l'herboristerie ou de la neuroscience, on ne sait jamais.
Merci beaucoup Amina, merci beaucoup
Merci à
Flash Love de
toi.
m'avoir accordé ce
Merci à
temps.
vous.
On va terminer par l'un de tes titres. Lequel souhaiterais-tu écouter?
Bah, Oran.
Allez, Oran.
Bien à l'intérieur, tout à l'intérieur. ne nous le voit. Plutôt mourir, je suis faite de chair et de sang. Je chanterai bien fort comme Cheikh Hakimiti. Mon chant est un cri. J'ai foulé pieds nus les terres arides de mon